Radio Okapi.
Jacques-Yves Molima pour la présentation.
Situation préoccupante ce week-end dans la région de Bouïsa, chefferie de Buito, dans les routures au nord Kivu. Plusieurs sources administratives et coutumières affirment l'arrivée ce dimanche matin d'une délégation du M23 dans la localité de Bouïsa, où elle a tenu un assemblement en présence d'une poignée de la population locale. Le recteur de l'université de Lubumbashi plaide pour la subvention de la recherche par les entreprises minières. Gilbert Kishiba pense qu'il serait indiqué que l'université bénéficie aussi de la redevance minière, à l'instar des entités territoriales décentralisées impactées par l'exploitation minière. Enfin, nous recevons dans cette édition du journal le gouverneur de la province de l'Ituri. Le lieutenant-général Johnny Luboya Kashama nous parle des dispositions prises pour rétablir le calme et promouvoir la cohabitation pacifique dans la chefferie des Babo à Bokoe. Et il fera également le point sur les opérations contre les ADF. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Au Nord Kivu, la situation est préoccupante ce week-end dans la région de Bouïsa, en groupement de Bishusha, chefferie de Buito, territoire de Rutshuru, limitrophe avec le territoire de Masisi. Plusieurs sources administratives et coutumières affirment l'arrivée ce dimanche matin d'une délégation du M23 à Kabarozi, dans la localité de Bouïsa, où elle a tenu un rassemblement en présence d'une poignée de la population locale. La localité de Bouïsa est une partie du parc national de Virunga, transformé en pâturage à l'époque du RCD Goma, mais aussi l'ancien quartier général du CNDP de Laurent Kunda. Dans cette même localité, les FRDC et les M23 tiennent des positions en face et à moins de 5 km, indiquent des sources locales. Le point avec Pélé Kipelamondo.
D'après quelques autorités administratives et coutumières de la région, la délégation du M23, accompagnée par des personnes présentées comme des journalistes et activistes des droits de l'homme étrangers, a rassemblé un groupe d'habitants à Kabarozi. S'adressant à la population, un officier du M23 a indiqué que ce mouvement ne compte pas abandonner les zones déjà conquises pour les laisser au FDLR de peur que ces derniers ne tuent leurs frères. Toujours selon notre source qui explique les messages des rebelles transmis à Kinyarwanda, ce même officier M23 a indiqué à la population que cette délégation est constituée d'enquêteurs venus se rendre compte de ce qui s'est passé dans la région, notamment à Kishishe et environ, et voir comment vit la population. En outre, de sources dans la région affirment que la situation est incertaine, car les FRDC et les M23 font face sur des collines. Les acteurs locaux craignent l'avancée du M23 et de leur soutien rwandais vers Kichanga, à une vingtaine de kilomètres de Bouïsa, alors que cette agglomération connaît déjà une forte présence des FRDC et des milices locales. Par ailleurs, sur les autres axes, la panique a gagné la population suite aux renforts qui continuent à recevoir les M23, notamment à Tongo et Kibumba, bien qu'il n'y ait pas de combat à signaler pour l'instant dans cette contrée.
On reste dans la chefferie de Buito, en territoire de Rutshuru. La population des villages occupés dénonce les menaces et autres intimidations dont elle fait l'objet chaque jour de la part des rebelles du M23. Dans leur témoignage, les habitants qui ont réussi à fuir jusqu'à Kichanga après l'occupation de leur village affirment que ce rebelle et leur soutien s'expriment sur la place publique promettent de tuer tout le monde si une perte venait d'être enregistrée dans leur rang. Les habitants fuient pour se mettre à l'abri, mais les conditions difficiles lors des déplacements les obligent à rentrer s'approvisionner. Selon eux, beaucoup de leurs frères et voisins ont été tués par les rebelles dans les champs. Les cris de détresse des habitants de Buito dans cet élément de Rosalie Zawadi.
Selon les témoignages des déplacés venus de la chefferie de Buito, c'est lors des rassemblements populaires que les hommes du M23 disent clairement qu'ils vont exterminer toute la population s'ils sont attaqués. Ceux des habitants qui les peuvent fouillent la zone. C'est le cas de ces pères de famille que nous avons rencontrés à Kichanga.
Là, chez nous, à Rusere Kamudugudu, ils nous disent que si quelqu'un les attaque un peu, ils vont tous nous tuer, nous exterminer. Donc nous, les hommes de ces milieux, nous ne savons plus quoi faire. Nous supplions le gouvernement qu'il nous aide à terminer cette guerre car nous sommes fatigués. Les femmes, les hommes, les enfants meurent. Nous sommes dépassés. C'est le deuil chez nous. Que l'État congolais ait pitié de nous, qu'il écoute nos pleurs.
Privés de nourriture à Kichanga, ces déplacés venus de Rusekera, Mulimbi et Kabizo pensent à leurs champs des haricots qu'ils devraient récolter au cours de ce mois de décembre et les maïs les mois suivants. Ne supportant plus de voir leurs enfants affamés, des pères de famille tentent d'aller s'approvisionner dans leurs champs, mais certains ne reviennent jamais car tués par les rebelles et leur soutien. De retour de Kichanga, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Toujours au Nord Kivu, plus de 120 000 personnes, dont des déplacés internes venus de Kiwanja, ont besoin d'assistance dans la partie sud du territoire de Lubero et au nord de Walikale voisin. Les acteurs de la société civile dans la région affirment que ces personnes sont venues notamment de Kiwanja, fuyant les exactions du M23. Ils plaident ainsi pour une intervention urgente du gouvernement congolais et de ses partenaires humanitaires. Sadiq Aboubakar nous en fait le point.
Il s'agit au total de 123 091 personnes, soit environ 25 000 familles. D'après le rapport d'une mission conjointe d'évaluation des organisations humanitaires menée entre le 5 et 9 novembre dernier dans la zone, parmi ces personnes, on a environ 6 000 familles d'accueil aussi vulnérables. Ces personnes sont regroupées notamment à Kanyabayonga et Kirumba. D'autres sont localisées à Kaina, Luofu, Miobwe, Kasehe, Bulutwa, Miriki, Kamandijit et Vuhoyo. Selon le rapport, ces familles manquent de nourriture, d'eau potable, d'abri et d'autres besoins de première nécessité. Le même rapport fait état de nombreux enfants non accompagnés dans les zones de déplacement, dont une majorité de filles. On note également des cas de viol rapportés pendant la crise en milieu d'origine, pendant le déplacement et en milieu d'accueil. Les acteurs de la société civile dans la région appellent à une intervention multisectorielle urgente du gouvernement et des humanitaires. Beni, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Autre nouvelle, en Ituri, 3 morts, 10 blessés, 4 femmes violées. C'est le bilan des attaques de miliciens incontrôlés de la Codeco dans la nuit de vendredi à hier samedi dans 4 localités du territoire de Djougou. Selon des sources de sécurité, ce groupe armé a également incendié plusieurs maisons et pillé des biens dans certaines boutiques. Les autorités coutumières demandent à cette milice de respecter son engagement de cessation définitive des hostilités qui a été réitéré à Nairobi 3. Isaac Remouyopi.
Ces miliciens se sont introduits samedi au village de Babou, proche de Libye, à environ 100 km au nord de Bounia, dans les territoires de Djougou. Des personnes ont été tuées par ces assaillants et 3 personnes blessées, dont une femme et son enfant de moins de 5 ans, et torturé 7 autres, affirmés des sources locales. La veille, un autre groupe de ces miliciens a fait incursion au village de Ngokoni et Diambou, où ils ont violé 4 femmes et se sont livrés au pillage des biens de la population. Dans la nuit de vendredi à samedi, ces assaillants sont revenus deux fois au centre commercial de Mbidjo, où ils ont tué une personne et pillés et incendié 10 maisons de commerce. Cette attaque a entraîné le déplacement des populations. D'autres miliciens ont barricadé hier les tronçons Litagou, Lona, Kwanganza pour exiger la libération du directeur d'une école qui serait enlevée par les groupes d'autodéfense Zaïre vers Mouito. Face aux multiples exactions de ces groupes armés, des voix s'élèvent pour demander à ces leaders d'instruire leurs hommes d'arrêter les violences contre des paisibles citoyens conformément à l'accord de Nairobi 3, mais aussi au gouvernement de déployer des militaires dans certaines localités où il n'y a aucune présence de services de sécurité et de concrétiser le programme de désarmement et de mobilisation qui a trop traîné. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Nous l'avons dit au sommaire, mesdames et messieurs, le recteur de l'université de Lubumbashi plaide pour la subvention de la recherche par les entreprises minières. D'après Gilbert Kishiba, étant au service de la société, l'université à travers la recherche doit être soutenue pour lui permettre de contribuer de manière significative à trouver des solutions aux problèmes que pose la société dans divers domaines de la vie. Pour le recteur, il serait aussi bien indiqué que l'université bénéficie également de la redevance minière, à l'instar des entités territoriales décentralisées impactées par l'exploitation minière. D'autres détails avec Jean Gando.
Ce souhait a été émis au cours de la conférence de presse qu'il a animée ce vendredi. Le recteur Gilbert Kishiba a indiqué que l'université, étant l'interface avec la société, a besoin de mener les recherches pour les besoins vitaux de la population, et cela dans divers domaines. Cependant, cette recherche requiert beaucoup de moyens, a-t-il précisé. Pour cela, il plaide pour que l'université de Lubumbashi, comme d'autres d'ailleurs, puisse aussi bénéficier de la redevance minière pour que des fonds soient alloués à la recherche, car celle-ci coûte cher et que l'université, avec ses maigres moyens, ne saurait financer.
L'université de Lubumbashi, d'autres universités compris, font partie de la communauté locale de Lubumbashi et peuvent bénéficier des atouts, des redevances minières et autres possibilités de favoriser la recherche approfondie. Dans ce fonds, il y a la possibilité pour l'université de Lubumbashi de mettre en valeur, à partir de ses recherches, les sites écologiques que nous détenons, notamment les 8000 hectares de foncier où se trouve d'ailleurs la source de la rivière Lubumbashi.
Au cours de cette conférence de presse, le recteur Gilbert Kishiba est revenu sur la participation des chercheurs de l'UNILU, notamment à la pré-COP de Ngambi et à la COP 27 en Égypte. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Autre nouvelle, la situation des droits de l'homme reste très préoccupante dans la province du Sud Kivu. Des violences armées aux manifestations publiques violentes, l'incitation à la haine ethnique et tribale, l'insécurité et leur impact sur les droits de l'homme. Situation décrite ce samedi 10 décembre, marquant le 74e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Toutefois, la synergie des organisations de droits de l'homme, SODH, constate des progrès dans la collaboration avec les services publics de la province en matière de droits humains. Mourabazi Namegabe, défenseur des droits de l'homme au Sud Kivu, s'exprime au micro d'Emmanuel Elamejiwa Kabedi.
La situation reste préoccupante malgré les avancées. Nous avons un tableau qui est très sombre parce que les groupes armés étrangers comme congolais continuent la violence armée dans la plupart des territoires avec l'impact sur la dignité humaine. Et au-delà de ça, nous avons une situation socio-économique de la population qui s'aggrave du jour au jour suite à l'impact de la guerre imposée au Nord Kivu du M23 font que les droits des personnes sont en danger. La synergie des organisations des droits de l'homme est consciente que les droits de l'homme existent en République démocratique du Congo. Les relations avec les autorités politiques, les forces de défense et de sécurité en rapport avec les problèmes des droits de l'homme, les relations sont très bonnes, s'améliorent chaque année. Nous invitons également les chefs des groupes armés à savoir que, quoi qu'ils soient en brousse, les droits de l'homme existent et que lorsqu'on commet des graves violations des droits de l'homme, la justice nationale et la justice internationale est là.
Par ailleurs, la disparité constatée dans le traitement des enfants, filles et garçons au niveau des familles constitue un abus de la part des parents. C'est ce qu'a déclaré Didienne Bunga, chef de division provinciale du genre famille et enfants du Congo central. C'était hier samedi à l'issue d'une tribune d'expression populaire sur les conséquences du mariage précoce organisé par la division provinciale du genre avec l'appui de World Vision. C'était dans le cadre de la clôture de 16 jours d'activisme contre les violences sexuelles faites aux femmes et filles. D'après Didienne Bunga, les tâches domestiques que les parents soumettent à la fille ne lui permettent pas de se concentrer aux études comme font les garçons. Cette situation, selon elle, ne sécurise pas la fille face aux violences sous toutes ses formes. Écoutons Didienne Bunga dans ses propos recueillis par Nana Plurichimambo.
Les enfants subissent beaucoup de violences en milieu scolaire, beaucoup d'abus de la part soit des enseignants, soit de leurs collègues élèves, soit de nous les parents. Comment nous traitons les enfants filles avant d'aller à l'école? Les enfants filles ont un bagage d'activités le matin avant d'accéder à l'école. Mais quand les enfants filles arrivent à l'école en retard, ces enfants filles sont encore punis. Mais plutôt les petits garçons, quand ils se réveillent, se préparent, ils arrivent à temps à l'école et il a tout le temps de passer les examens, de suivre les cours dans la quiétude. Contrairement à la fille, même à la rentrée de la maison, après l'école, il y a tout un bagage d'activités domestiques qui l'attend. Il y a une disparité dans la prise en charge des enfants, que ce soit au niveau des écoles, que ce soit au niveau de nos familles. Ça ne sécurise pas, ça ne protège pas la petite fille. Et c'est comme ça que nous disons aux parents de traiter tous les enfants de la même façon. Mais aussi, aujourd'hui, nous nous rendons compte que les parents ont une démission vis-à-vis de leurs responsabilités par rapport à la protection des enfants. Nous, les mamans, le matin, nous sommes au travail. À 17h, nous allons à l'église. On n'a pas eu le temps d'être avec les enfants toute la journée. On ne sait pas qu'est-ce que l'enfant a connu comme violence au niveau de l'école, comme violence au niveau de la famille.
Et puis, au lendemain de la disparition de la chanteuse Chalamwana, la ministre congolaise de la Culture, Art et Patrimoine s'est dit très affectée et bouleversée. Dans son message de condoléances, Catherine Katungu-Furaha rend hommage à une grande dame qui a pérennisé les rythmes traditionnels congolais sur une musique moderne. Elle regrette en même temps que ce patrimoine humain intemporel quitte la scène et la terre des hommes à 4 jours du premier anniversaire de la date d'inscription de la rumba congolaise sur la liste du patrimoine mondial immatériel et culturel de l'humanité. La ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Katungu-Furaha, est au micro de Jean-Marc Matwaki.
Chanamwana, la reine du Mutuashi, est décédée le 10 décembre 2022, alors que la Rumba va célébrer son premier anniversaire le 14 décembre 2022, parce qu'elle a été inscrite comme patrimoine culturel immatériel universel. C'est un anniversaire auquel Chanamwana devrait vraiment représenter l'image de la femme qui a pérennisé les rythmes traditionnels congolais sur une musique moderne. Chanamwana est parmi les deux ou trois artistes femmes de la RDC, avec Abeti Masikine et Mbili Abel, qui ont amené la voix féminine de la rumba au plus haut niveau africain. Chanamwana a chanté sur la même scène avec Myriam Makeba de la République sud-africaine. Elle a chanté avec Angélique Kidjo de Bénin. Elle a chanté avec Nayan Kabel de la Côte d'Ivoire et avec Patience Dabani du Gabon et tant d'autres au niveau national qu'international. Nous continuons vraiment à nous consoler par le fait que l'artiste ne meurt jamais. Et Chanamwana est un patrimoine humain temporel. Donc Chanamwana est mort, vive Chanamwana. Ses œuvres vont toujours continuer à nous égayer.
Actualité internationale.
Au Burkina Faso, le pays commémore ce 11 décembre le 62e anniversaire de son accession à l'indépendance. En lieu et place d'un discours, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a adressé un petit message, selon ses propres termes, à ses compatriotes. Selon le chef de l'État du Burkina Faso, le pays n'est pas encore indépendant car les terres sont toujours occupées et le combat pour l'indépendance totale du Burkina Faso passera par les armes et aussi par un changement de comportement.
L'invité.
Nous recevons dans cette édition du journal le gouverneur de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama. Il nous parle des dispositions prises par le gouvernement pour rétablir le calme et promouvoir la cohabitation pacifique dans la chefferie des Babo à Bokoe. Il fait aussi le point sur les opérations militaires en cours pour démanteler les rebelles des ADEF qui troublent la quiétude de la population dans certaines localités, dans les territoires d'Irumu et de Mambasa. Il revient également sur la rencontre jeudi avec les leaders des groupes armés assortis des recommandations pour l'instauration d'une paix durable en Ituri. Le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama s'entretient avec Isaac Remoyope. Suivez.
Le gouverneur de l'Ituri, par rapport à la tension observée à la périphérie de la ville de Bounia depuis le lundi, le député national Gracien Irachan dénonce la passivité du gouvernement pour protéger la population en fuite. Que répondez-vous à ces allégations?
Nous vivons une accalmie, ça fait 5 à 6 mois. Avez-vous entendu parler des tueries et tout? Et vous savez qu'est-ce qui a opposé les populations la dernière fois? Une fausse sceptique qui a opposé les populations. Et vous savez très bien que j'ai déployé les gens là-bas. Le commandant région est resté, il a passé la nuit là-bas. Si vous suivez dans les réseaux, il y a des gens qui s'amusent à vouloir faire peur aux autres. Hier et avant-hier, il y a eu beaucoup de messages dans les réseaux. Les gens se sont transférés des messages pour manipuler des rumeurs. Ce sont des choses qui ont été faites à dessein. Mais Dieu merci, heureusement, ils ont vu que nous sommes présents. Nous sommes présents et nous avons dit à toutes les communautés qu'ils peuvent bien manipuler, mais ils doivent savoir que à la moindre incartade, nous allons utiliser la force. C'est comme ça. Ce n'est pas parce qu'il y a le dialogue que les gens doivent continuer à s'amuser. Vous voyez une fausse sceptique qui commence à opposer les gens.
Vous avez accueilli jeudi les leaders des groupes armés FPIC, FRPI et CODECO qui sont revenus de Nairobi. La population veut savoir est-ce qu'il y aura effectivement une paix durable en Ituri. Qu'est-ce qui va suivre concrètement après Nairobi 3?
En tout cas, je tiens d'abord à féliciter tous ceux-là qui ont participé à ce dialogue-là. Les gens pensaient, n'est-ce pas, monter les enchères ici pour que Nairobi s'arrête et que tout s'arrête. Mais les gens ont tenu bon. Il y a eu ce dialogue et les gens se sont engagé. Et j'ai eu un seul message, j'ai dit voilà, nous avons fait un pas en avant, on ne doit plus reculer. Ils doivent descendre sur terrain, parler avec leur communauté, parler aussi avec les populations et les communautés, et parler aussi avec leurs membres de groupes armés là-bas pour les sensibiliser, les mobiliser, pour leur dire que voilà, nous nous sommes engagés, on ne peut plus utiliser la violence. Et que s'il y a des problèmes, qu'ils reviennent vers moi et nous allons essayer de les résoudre. Vraiment, félicitations pour tous ceux-là qui ont été là-bas. Félicitations pour toutes les communautés qui étaient là. Les gens pensaient que l'Ituri ne va pas refuser d'aller vers la paix. Mais maintenant, tout le monde a vu que la population veut s'engager. La population a poussé tous ces gens-là. Parce qu'il y a d'autres qui étaient en train de traîner les pieds. Mais la population les a poussés. La population a dit, niet, vous allez à Nairobi. Et ils sont allés à Nairobi. Pour ceux qui ne sont pas partis, bon, on va voir. Peut-être le groupe, il y a un seul groupe qui n'est pas parti. Mais je suis sûr qu'ils ont vu.
Ces leaders des groupes armés ont exprimé leur inquiétude par rapport au groupe d'autodéfense Zaïre qui n'a pas encore adhéré à ces processus. Est-ce qu'il y a des démarches pour l'intégration des Zaïre dans ces processus?
Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont appelé directement à Nairobi pour dire « Ah non, voilà, nous allons venir à Nairobi avec des généraux de Zaïre ou je sais pas, des colonels pour aller directement à Nairobi ». On comprend maintenant que, bon, voilà, c'est vraiment de la manipulation. On ne veut pas montrer ce qu'on est et puis on appelle directement à Nairobi pour qu'on soit présent. J'ai des messages qui viennent de tous ces gens-là veulent de la paix. Qui est ce monsieur qui manipule ici à Kinshasa et ici à Bounia? Mais je suis très content que même ce groupe-là, moi j'ai l'information que tous ces gens-là voudraient bien revenir aller vers la paix. Ils le regrettent amèrement le fait de n'être pas partis. Ils le regrettent. Et je le sais. Bon, on va peut-être dans une autre occasion, on a vu déjà leur bonne foi parce qu'ils ont exprimé d'aller à Nairobi. On verra ce qui va se passer prochainement.
La situation sécuritaire s'est détériorée ces derniers jours aussi du territoire d'Iromou avec l'activisme des rebelles des ADF. Quelles sont les actions concrètes menées par les gouvernements pour démanteler ces groupes armés?
Non, il y a des actions concrètes. Vous savez, d'abord, il fallait qu'on attende parce qu'il y a eu des nouvelles nominations. Et maintenant que tout le monde est arrivé au niveau du secteur, nous avons donc affecté un général dans cet axe-là, Boga Chabi, qui est là avec des éléments, qui est en train de mener des opérations. Et d'ici là, je pense qu'on va aussi continuer avec les opérations sur Komanda Luna, Komanda Lolo. Et donc, nous sommes obligés, nous serons obligés, parce qu'il faut bien des opérations simultanées. Et cela demandait que tout le monde arrive parce que comme vous le savez, il y a eu beaucoup de changements au niveau du secteur et de la région. Voilà.
Le gouverneur de province de l'Ituri, le général Johnny Luboya Kachama, je vous remercie.
Merci.